Radio Okapi.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Qualifiant la majorité de l'Union sacrée pour la nation défatiste, la dynamique pour une sortie des crises du COSEC plaide pour un dialogue entre Joseph Kabila et Martin Fayulu sous la médiation des confessions religieuses traditionnelles comme la seule voie des sorties des crises. Flambée des prix des produits de première nécessité observée ces derniers temps sur le marché de Bounia en Ituri. Certains commerçants justifient cette situation par l'insécurité et le mauvais état des routes qui ne facilitent pas l'acheminement des produits vers les centres commerciaux. Maître Gracia Kibanji à point focal RDC du réseau des enfants et jeunes africains pour les droits de l'homme REJED nous rejoindra avant la fin de ce journal. Elle est notre invitée et s'exprime sur l'implication des jeunes du Nord Kivu dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous. Mais d'abord, cette information, en bref, sachez que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'adressera à la nation demain lundi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. L'annonce a été faite vendredi dernier par le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, en plénière devant les sénateurs. C'est pour faire un état des lieux sur la marche du pays, a souligné le président de la Chambre haute. La dynamique pour une sortie des crises du SOC en sigle affirme prendre acte de la destitution du bureau de l'Assemblée nationale et soutient que l'espace politique est composé de trois forces politiques dont l'Union sacrée de Félix Tshisekedi, le FCC de Joseph Kabila et la Mouka de Martin Fayulu. Dans une déclaration ce samedi à Kinshasa, la DISOC estime cependant que cette déchéance du bureau Babunda n'est pas une solution à la crise politique en RDC et que la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale est factice. Dénonçant la convocation du Congrès alors que le bureau d'âge de l'Assemblée nationale n'est pas habilité, le porte-parole de la DISOC plaide pour un dialogue entre Joseph Kabila et Martin Fayulu sous la médiation des confessions religieuses traditionnelles comme la seule voie de sortie des crises. Lisanga Bonganga est au micro de Michel Kifindangoy.
La majorité aléatoire pour déchoir les bureaux de l'Assemblée nationale est une majorité obtenue suite à la non-satisfaction des préoccupations sociales des députés et au chantage odieux exercé sur les députés à qui on a brandi la menace de dissolution de l'Assemblée nationale. La mise en place de cette majorité parlementaire n'est pas une solution à la crise qui enchaîne notre pays. La DISOC stigmatise la constitution de l'Union sacrée comme plateforme politique devant jouer le rôle d'accompagnement de la dictature. En tout état de cause, seul le dialogue entre les trois parties prenantes à la crise pour l'adoption consensuelle des réformes impératives constitue la voie idoine de sortie des crises.
Honoré Oubangui, déchéance ce samedi du gouverneur des provinces par motion de défiance des députés provinciaux. La motion a été votée par 16 voix sur 26 votants. Il était reproché à ce gouverneur PPRD plusieurs griefs, dont la mauvaise gestion. Le vote a eu lieu plus tôt à l'absence du gouverneur, alors qu'il a été régulièrement notifié la veille de la plénière. Des précisions avec Paul-Richard Malengela.
Le gouverneur Isa Tonzege a été déchu de ses fonctions ce samedi par la plénière de l'Assemblée provinciale. Et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. C'est une motion de défiance qui a eu raison de l'autorité provinciale du Nord Oubangui, motion qui a été votée avec 16 voix pour et 10 voix contre. Nos sources affirment que le gouverneur a été accusé de plusieurs griefs, entre autres la mégestion et le détournement des fonds publics. Cependant, le vote s'est déroulé en l'absence du concerné, alors que la veille, il a été régulièrement notifié de cette motion. Le gouverneur Isato du parti PPRD aurait préféré quitter la ville de Badoli Tenuitamon pour se rendre à Gemena. De là, finalement, atteindre Kinshasa, sous prétexte qu'il a été d'urgence invité en consultation par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, notons qu'avant cette motion de défiance de l'Assemblée provinciale, le gouverneur déchu s'était aussi confronté avec le groupe des jeunes responsables du Nord Oubangui. Il accusait notamment des détournements des fonds et des biens de la province envoyés par le gouvernement central. Enfin, nous n'avons pu joindre le gouverneur Isa Tonzege en vue d'avoir aussi sa réaction à cette déchéance. Bondaka, Paul-Richard Malengela, Radio Okapi.
Dans la province de la Tshopo, trois députés provinciaux arrêtés hier au point kilométrique 13 sur la route de l'Ituri ont comparu hier même devant selon les juges de la cour d'appel de Kisangani, dans un procès en flagrance. Ils sont accusés de casser les barrières de la direction provinciale des recettes de la Tchopo, occasionnant ainsi un manque à gagner à l'État. Les récits des faits avec Jacques Mukonkole.
Devant la barre, on a vu Jacques Mandjongo Saïdi, le Tondo Lesile et Moussa Hamadi, tous députés provinciaux. Trois autres députés du groupe avaient pris le large. Ils sont accusés par le ministre provincial en charge de l'Intérieur, Jean Tongo Bandamali, de casser les barrières de la DGRPT au point kilométrique 23 et 13 sur la route de l'Ituri, faisant passer ainsi les véhicules sans qu'ils ne soient soumis au paiement des taxes requises. Une tâche qui ne leur revient pas, affirme le ministre Jean Tongo. Au point kilométrique 13, où ces députés ont été surpris par le ministre, il y aurait eu des altercations entre deux parties, chacune d'elles alléguant d'ailleurs devant les juges avoir été victime d'agressions physiques par la partie adverse. Après avoir entendu les intéressés pendant plusieurs heures, ainsi que le ministre provincial en charge de l'économie et finances, en tant que renseignant, la cour a suspendu la séance tard dans la nuit. Le procès a été renvoyé à ce lundi 14 décembre. En attendant, les trois députés incriminés ont été conduits à la prison centrale où ils ont passé leur première nuit. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Justicia Asbel, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Lubumbashi, s'est dit satisfaite de la prolongation des sanctions décidées pour certaines autorités congolaises par l'Union européenne. Dans un communiqué de presse rendu public vendredi, cette ONG plaide aussi pour que les poursuites judiciaires soient initiées à l'encontre de ces autorités auteurs des violations des droits de l'homme afin que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Timothée Mbouya, président de cette ONG, en parle au micro de Jean Andou.
Au-delà du fait que nous avons salué ce renouvellement des sanctions, nous demandons l'ouverture des enquêtes judiciaires pour que les différentes personnalités qui sont sanctionnées puissent répondre de leurs actes. Il existe aujourd'hui plusieurs victimes mais qui n'attendent que justice leur soit rendue. Pour nous, l'Union européenne a donné un exemple qui doit être suivi aussi par le gouvernement congolais en initiant des enquêtes judiciaires sur ces personnes afin qu'ils répondent de leurs faits devant les instances judiciaires. Mais nous demandons également aux pays membres de l'Union européenne qui ont pris ces sanctions de pouvoir exercer la compétence universelle pour que les différentes personnalités congolaises indexées soient interpellées par la justice des pays membres de l'Union européenne. Je vais citer un cas. On sait tous que dans l'assassinat de Zaïda Catalan et Mike El Chap, nous savons que certaines personnalités congolaises ont été citées notamment par la justice congolaise. Pour nous, c'est une occasion pour demander à ces pays de voir dans quelle mesure ils peuvent actionner les principes de la compétence universelle pour faire poursuivre toutes ces personnalités devant leur justice respective.
Alors qu'on les croyait au point mort, le processus de désarmement de la milice FRPI est en train d'accélérer. Le chargé des missions du programme Starik en Ituri a annoncé l'ouverture demain lundi du centre de désarmement des éléments de la force des résistances patriotiques de l'Ituri FRPI à Kamachi, dans la chefferie de Walendubindi au sud du Rumo. Jean-Marc Mazio indique que ces lieux vont servir d'endroit où les miliciens de ces groupes armés désirés d'adhérer au processus de paix pourront venir déposer leurs armes et recevoir en retour un certificat de désarmement pour les réinsertions communautaires. Ce site sera géré par le gouvernement provincial à travers les Starik avec l'appui logistique de la MONUSCO. Jean-Marc Mazio a été joint au téléphone par Marcel Kizabiamungu.
On est en train de sensibiliser l'état-major pour envoyer les gens. Et je crois que ça va aller nous en nous contenter, mais comme ça ne sera pas seulement un seul jour, ça sera une série de l'opération pendant durant deux mois. Le site sera ouvert. Les miliciens arrivent, déposent, ils bénéficient, donc ils reçoivent les certificats de désarmement et après à la communauté pour écrire directement le projet de réinsertion. Et là, ils ont des activités en caractère civil et donc voilà, ils vont commencer déjà à toucher un peu de moyens pour la survie et puis contribuer à la reconstruction de sa communauté. Donc ça fait pour deux mois et après il intègre encore un grand projet de réintégration.
Au sud Kivu, la criminalité urbaine fait encore des victimes dans la ville de Bukavu. Un homme et sa femme ont été tués dans la nuit de ce dimanche 13 décembre au quartier Mosala, commune de Kadutu. Dans la même nuit, l'on signale aussi que les hommes en armes ont grièvement blessé par balle un jeune garçon et une jeune fille dans leur propre maison. Cette situation a poussé les habitants de Kadutu à débarricader les artères de leur quartier en brûlant deux pneus sur la chaussée. Hippocrate Maroumé, président de la société civile de la commune de Kadutu, revient sur ces incidents. Il est joint au téléphone par Emmanuel et le Mejoua Kabedi.
C'est depuis vers 22h qu'on nous a alerté qu'il y avait des voleurs qui étaient en pleine opération. Des messieurs qui fait ses activités de restaurant au niveau de pas à pas, qui a été surpris par des malfrats. Ils ont ravi tout ce que le monsieur avait. Ils l'ont logé des balles et sa femme, et qui sont morts après quelques heures. Le même cas s'est produit au niveau de Chikoni, la même nuit. Les malfrats ont opéré dans une maison. Après avoir ravi tout ce qui était dans la maison, ils ont tiré sur un jeune de la maison, deux balles dans la jambe. Alors après les alertes, il y a une autre fille qui est sortie pour alerter. Elle a aussi été surprise par le même malfrat qui l'ont logé aussi des balles dans la jambe. Du côté de Bouolo-Kacha, ils ont aussi opéré dans des maisons où ils ont emporté des biens. Pour l'instant, la tension elle est très vive. La population barricade la route. Il n'y a pas d'activité. Dans tous ces cas, il n'y a aucune intervention de la police.
Signalons que ce cas intervient après celui de la nuit de vendredi à samedi dernier dans la commune de Baguira, où un enseignant de l'institut de Baguira avait été trouvé mort loin de son domicile. Les élèves de Baguira avaient encore manifesté. Aucune explication de la part des autorités policières de la ville de Bukavu. Rendons-nous à Ituri et précisément à Bunia où les habitants se plaignent de la flambée des prix des produits de première nécessité observés ces derniers temps sur le marché. Certains commerçants justifient cette situation par l'insécurité et le mauvais état des routes qui ne facilitent pas l'acheminement des produits vers les centres commerciaux. D'autres mettent en cause la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Janvier Egoudra, ministre provincial de l'économie, demande aux opérateurs économiques de se conformer aux instructions du ministère national de l'économie. Charlie Omba.
Au grand marché de la ville de Bunia, tout le monde est unanime. Les prix des denrées alimentaires ont pris de l'ascenseur depuis quelques semaines. À titre d'exemple, un bidon d'huile végétale qui se vendait à 22 dollars américains se négocie aujourd'hui à 27 dollars. Celui du sac de riz est passé de 19 à 22 dollars. Quant au kilo de viande de bœuf, il faut désormais débourser 10 000 francs congolais au lieu de 18 000 francs comme habituel. Certains marchands justifient cette situation par l'insécurité persistante dans la province, d'autres acquis les mauvais états des routes dans plusieurs centres de production sur l'ensemble de la province. Moi, j'interviens sur les prix des arachides. On achetait un kilogramme à 2000 francs, mais ce dernier temps, c'est à 4200 francs congolais. Que les autorités nous viennent en aide. Même le prix de la farine a aussi galopé. D'autres commerçants justifient également cette situation par la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Ici, les taux varient de 1950 à 2500 francs congolais pour un dollar américain. Cependant, le ministre provincial de l'économie et finances précise que les mesures d'encadrement sont prises pour éviter les prix arbitraires fixés par les commerçants, ce qui risque de détruire les pouvoirs d'achat des consommateurs. Bunia, Charlie Omba, Radio Okapi.
Le président de l'intersyndicale de la SCPT, Exonatra, recommande au chef de l'État d'envisager la réévaluation de la réforme des entreprises publiques en vue de corriger les failles. Dans une déclaration à la presse dimanche à Kinshasa, Armand Ossassé a déclaré que le résultat des réformes antérieures est négatif, dans la mesure où toutes les entreprises publiques sont presque en faillite. Il est plus que temps, prévient-il, de le rendre, comme à l'époque, opérationnelle, compétitive et plus performante. Le propos d'Armand Ossassé ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Le résultat des réformes, c'est négatif, parce que les réformes ont été initiées dans le seul but de donner les possibilités de démembrer les entreprises, privatiser les entreprises au détriment des intérêts du pays. Donc, parce que si toutes les sociétés aujourd'hui à faillite, parce que les réformes ont été mal initiées, mal orientées, parce qu'elles visaient que le profit des politiciens et non des intérêts du pays. Je vous donne un exemple. L'Onatra transforma société commerciale. Avant la réforme, on avait zéro arriéré. Après les réformes, nous avons 28 mois d'impayement à la SONAS. On avait refusé la libéralisation brutale des codes des assurances. Aujourd'hui, la SONAS est presque à faillite. Régie des zones à parlement, il n'y a pas d'eau. La SNEL et toutes ces entreprises. Pourquoi? Leur plan était de créer des entreprises privées au détriment de l'État congolais. Et d'ailleurs, c'est grâce à l'actuel ministre du portefeuille qu'aujourd'hui, il n'y a plus des grèves comme auparavant dans les entreprises. Son souci, c'est de rendre ces entreprises opérationnelles, compétitives et puis performantes.
Actualité internationale.
En Allemagne, tous les commerces non essentiels ainsi que les écoles et crèches vont fermer à partir de mercredi jusqu'au 10 janvier 2021, a annoncé dimanche la chancelière Angela Merkel. Pour tenter d'endiguer la deuxième vague de virus, constatant des très nombreux décès dus à l'épidémie des coronavirus et la croissance exponentielle des infections, la dirigeante conservatrice citée par l'AFP a assuré « Nous sommes contraints d'agir et nous agissons maintenant ». Notons que près de 21 900 personnes sont mortes de la pandémie sur près de 1 336 000 contaminés en Allemagne. En Centrafrique, fin de visite pour la délégation conjointe du président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, François Loncenifal. Ces hauts représentants estiment, à la suite de leur mission, que le pays peut tenir les élections le 27 décembre. Pendant leur séjour, ils ont rencontré l'ancien chef d'État François Bozizé, dont la candidature a été rejetée. Les échanges se sont concentrés sur les questions sécuritaires.
L'invité.
C'est Maître Gracia Kimbandia, point focal RDC du réseau des enfants et jeunes africains pour le droit de l'homme, REJED. Elle s'exprime sur l'implication des jeunes au Nord Kivu dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Maître Gracia Kimbandia est interrogé par Jules Ngala Wamona.
Maître Kimbandia, bonjour. Est-ce que d'abord vous acceptez que le Nord Kivu est la capitale des violences contre les femmes et comment on va y mettre fin?
Effectivement, c'est triste de voir que après plusieurs années de guerre, le Nord Kivu est encore considéré comme la capitale du viol. Et c'est vrai parce que avec la multiplicité des groupes armés, avec tout ce qu'il y a comme guerre interethnique et tout, ce sont les femmes qui sont des fois instrumentalisées, qui sont des fois prises comme des instruments de guerre. Mais qu'à cela ne tienne, il y a ces femmes-là qui survivent à toutes ces violences-là, ces femmes fortes du Nord Kivu qui maintenant là viennent de s'unir pour voir comment est-ce qu'ils peuvent continuer à lutter contre ces violences sexuelles et basées sur le genre. Tout dépendra effectivement de l'engagement de ces femmes, de l'engagement du gouvernement provincial, de l'engagement du gouvernement national, de l'engagement des autres organisations internationales qui sont dans la lutte contre les violences sexuelles, à devoir non seulement financer, connecter, aussi engager les femmes et toutes les générations, et les hommes aussi, parce que les hommes ont aussi un grand rôle à jouer dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre.
Mais vous avez votre propre organisation. Comment cette organisation s'engage-t-elle dans cette lutte-là, en dehors de toutes les femmes du Nord Kivu?
Oui, je suis ici en tant que point focal du réseau des enfants et jeunes africains pour le droit humain. C'est un réseau de jeunes et des enfants qui se sont unis pour pouvoir promouvoir le protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de femmes, dénommé protocole de Maputo. C'est depuis 2016 que nous nous sommes dit qu'il était grand temps que les jeunes puissent aussi s'engager dans la prévention et la protection des droits de femmes. Et donc, nous avons commencé une campagne dénommée Myth of Maputo. Et cette campagne-là a fait à ce que nous puissions rencontrer, faire des plaidoyers auprès des leaders religieux pour leur dire qu'ils ont un grand rôle à jouer dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Nous avons rencontré certains auxiliaires de la justice parce que vous savez que le plus grand problème, c'est la lutte contre l'impunité. L'impunité parce que très souvent, il y a certains bourreaux qui ne sont pas punis, il y a certains auteurs qui ne sont pas punis et cela fait à ce que les violences puissent se perpétuer de génération en génération. Et donc le REJED s'est dit que non, il était grand temps que nous puissions aussi engager les auxiliaires de la justice, donc toutes les personnes qui disent le droit, pour qu'ils puissent connaître non seulement le protocole de Maputo, mais aussi connaître la loi sur les violences sexuelles de la RDC, connaître aussi tous les textes qui promeuvent le droit de femmes et s'engager à les utiliser valablement, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des textes, mais il faudrait aussi les utiliser valablement pour lutter contre ces violences sexuelles. Nous avons également fait beaucoup d'activités avec les jeunes. Cela nous pousse encore à engager toutes les générations à continuer à lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre. C'est pourquoi nous travaillons plus avec les jeunes dans des écoles et tout. Nous avons implanté des clubs de jeunes filles pour les droits humains, pour que les jeunes filles aussi, tout en étant à l'école secondaire, qu'elles puissent s'engager à continuer à lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre.
La justice vient de punir M. Tcheka. Comment vous avez apprécié cette action de la justice?
Oui, cette action de la justice est une victoire pour toutes les personnes qui luttent contre les violences sexuelles et basées sur le genre, mais que cette victoire puisse amener la justice à pouvoir continuer cette lutte-là et arriver à condamner la plupart de responsables de groupes armés pour que non seulement nous puissions arriver à réduire les violences sexuelles basées sur le genre, mais aussi amener la paix et la sécurité dans les entités de la province du Nord Kivu et que les femmes puissent aller au champ en sécurité, que les hommes puissent faire leur travail en sécurité et que demain ou après-demain, nous puissions sentir que les différentes responsables de groupes armés sont tous punis pour la paix et la sécurité dans notre province.
Maître, je vous remercie.
Je vous remercie également.